Kaminski. On va venir vous parler de Replicant. Alors vous allez voir, moi je suis, en fait je suis le prétexte là-dedans, je fais rien de sérieux. Je viens juste vous expliquer pourquoi il faut écouter ce que Paul raconte et pourquoi ce qu'il fait est important et intéressant. En fait, un des éléments clés des questions autour du logiciel libre de nos jours tourne autour de savoir qui possède la machine et qui contrôle la machine. L'exemple que j'utilise le plus souvent en conférence pour expliquer ça, c'est celui du lecteur de DVD. Je ne sais pas qui parmi vous est encore muni d'un lecteur de DVD de salon. Il ne l'a pas remplacé par un VLC sur un ordinateur. Quand on met la galette en plastique dans le manche-disque, là, et puis qu'on veut zapper la pub pour aller directement sur le menu et le film, le machin, il dit « interdit ». Il ne dit pas « interdit » parce que c'est techniquement pas possible, puisque quand on met la même galette dans le manche-disque de l'ordinateur et qu'on regarde avec VLC, on peut passer la pub. Donc c'est pas techniquement impossible. Quand il dit « interdit », il répond à une directive qui ne vient pas de l'utilisateur. En fait, il répond à des intérêts qui ne sont pas les miens. C'est mon lecteur que j'ai acheté. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas loué, il est à moi. La galette en plastique que je mets dedans, je l'ai payée, elle est à moi. Si je l'avais intelligemment téléchargée avec n'importe quel client BitTorrent, je n'aurais pas ce problème-là. Ça a l'air très anecdotique parce que ce n'est pas très grave, mais en fait, ça veut dire qu'il y a un ordinateur dans mon salon qui obéit à des directives qui ne sont pas les miennes, qu'il sert des intérêts qui ne sont pas les miens. Et c'est un ordinateur dont je n'ai pas le contrôle. Il veut bien faire ce que je lui demande, sous certaines conditions, si ça l'arrange, et si la personne à qui il obéit vraiment est d'accord. Alors il se trouve que la personne à qui il obéit vraiment, quand c'est le lecteur de DVD, se faisait ayant droit. Et puis il y a une question qui devient la même, mais beaucoup, beaucoup plus compliquée quand on joue avec ça. Moi, quand j'ai commencé les logiciels libres, un driver pour un périphérique d'un ordinateur, c'était quelque chose de très simple, vraiment très simple. L'électronique de contrôle d'un port série ou d'un port Ethernet de mon jeune temps, c'était quelque chose de très simple. Sur ces machines-là, c'est plus le cas. On n'est plus du tout sur l'électronique très simple. Là-dedans, alors d'abord, c'est pas un téléphone, ça. Ça, c'est un ordinateur. C'est avant tout un ordinateur. C'est-à-dire, ça boot un système d'exploitation normal, ça boot un Linux relativement normal. C'est pas du tout un téléphone, c'est un ordinateur. Et surtout, il y a plusieurs ordinateurs là-dedans. Il y en a au minimum deux. Il y en a un qui gère la partie radio, la partie téléphonie, et qui n'obéit pas du tout à ce que vous lui demandez. Mais pas du tout. Il obéit au réseau. Le réseau lui dit de s'allumer, lui dit de s'éteindre sans passer par vous. Sur certains téléphones, la partie radio, l'ordinateur dédié à la radio, peut tout seul décider d'allumer le micro et de capter du son et de l'envoyer sur le réseau sans passer par l'utilisateur. Uniquement sur décision du réseau. On a les mêmes problèmes sur d'autres ordinateurs modernes, mais sur les embarqués, c'est vraiment là que c'est le plus caricatural. C'est le même problème que le lecteur de DVD. C'est qui contrôle le logiciel ? Un exemple simple pour s'en convaincre sur les téléphones, c'est le fonctionnement du monde Apple, pour ceux d'entre vous qui ont croisé récemment un iPhone. Spontanément, quand il sort d'usine et qu'on ne l'a pas cassé, il ne fait tourner que les logiciels qui ont été validés par Apple. Monsieur Apple a décidé que sur ses ordinateurs, il n'y aurait pas de porno. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Je suis adulte, majeur et vacciné, je n'ai pas été déclaré incapable pénalement, le porno est légal en France. Si j'achète un ordinateur de poche Apple et que je veux mettre du porno dessus, je ne peux pas, je suis obligé de le casser. Le fond du problème, il est là. Cet ordinateur répond à des directives qui ne sont pas les miennes. Il obéit à des contraintes qui ne sont pas les miennes. Il fait des choses et il applique une morale qui n'est pas la mienne. Et donc, en fait, c'est un moyen de m'imposer une morale extérieure. C'est un moyen de m'imposer un mode de vie, un style de vie extérieur. Et c'est un contrôle sur tout, puisque ça contrôle à qui je peux parler, ça contrôle ce que je peux dire. Si le téléphone n'a pas envie d'envoyer un SMS, il peut ne pas l'envoyer. Tout le problème est de savoir qui contrôle ce que fait cet ordinateur. Et cet ordinateur, il est devenu compliqué. On nous vend couramment que Android, c'est bien parce que c'est du Linux et c'est du logiciel libre, et c'est essentiellement faux. Il y a une partie des logiciels là-dedans qui sont libres. Les logiciels les plus intéressants, ceux qui contrôlent véritablement les composants physiques, en moyenne, ils ne le sont pas. Et le vrai intérêt de Replicant, par rapport à tout ce que j'ai vu par ailleurs dans l'informatique arcée, c'est de travailler précisément sur ces morceaux-là. C'est tout sauf fini, c'est tout sauf complet, c'est tout ce qu'on peut en fait. Ça fait pas encore beaucoup, mais d'un autre côté, il faudrait qu'il y ait 30 ou 40 fois plus de développeurs pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Et donc là, il y a des vrais enjeux, il y a des vraies questions. On en parlera peut-être sur les questions-réponses à la fin, mais voilà. Ce morceau-là, c'est ce que raconte Paul, et je pense que c'est un des sujets extrêmement intéressants, et c'est une des questions clés dans les libertés en informatique en ce moment. À toi.
Merci Benjamin, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter un certain nombre d'aspects plus techniques sur la question de la libération des appareils mobiles, donc notamment au travers du projet Replicant. Ah, décidé de ne plus marcher, très bien, ça va. Bien, alors pour commencer, je vais vous présenter un ensemble descriptif de ce qu'est un appareil mobile, comment c'est composé, quelles sont les différentes puces qu'on trouve, quelles sont en fait les problématiques à chaque niveau. Pardon. Ok, c'est mieux. Alors pour commencer, ce qui compose un appareil mobile au niveau numérique, donc les composants qui en fait sont capables de faire des choses, qui ont du pouvoir, ce sont d'abord différents processeurs. On a un processeur principal qui est celui sur lequel le système d'exploitation principal va s'exécuter, qui est le gros processeur qu'on connaît. Et en fait, on a de plus en plus des processeurs auxiliaires qui sont en périphérie de ce processeur-là, qui en fait vont réaliser des tâches très particulières, donc typiquement du calcul, du traitement de signal, des choses assez spécifiques. Et on a ce processeur de communication, le modem, qui est également en parallèle. On trouve différents contrôleurs et périphériques qui chacun remplissent une tâche spécifique, pas forcément dans le traitement de l'information, mais plutôt dans la communication, les entrées-sorties, ce genre de choses. Et tous ces éléments-là sont numériques, ils sont capables de faire des choses assez poussées, ils ont en fait un vrai pouvoir de calcul à l'intérieur, et ils sont particulièrement intéressants du point de vue des libertés. Ces choses-là sont implémentées en fait de deux manières. La première manière de faire ça, c'est du matériel, donc essentiellement des composants électroniques, des puces, des puces en silicone qui remplissent des fonctions qui sont fixées à jamais lors de leur conception. Et puis on a des composants logiciels qui vont pouvoir être reprogrammés essentiellement. Et finalement, on constate que le nombre de composants programmés ne cesse d'augmenter dans ces appareils-là. On a de la même façon le traitement de toutes les informations, de toutes les choses auxquelles traite l'appareil mobile, qui vont être délocalisées dans tous ces processeurs auxiliaires. Et toutes ces choses-là vont en fait avoir accès aux communications et aux données qu'on leur fournit. Ça pose de vraies problématiques de confiance en la technologie, évidemment. Tout ce qu'a mentionné Benjamin, avoir le contrôle de son appareil, mais également être capable de comprendre comment fonctionnent ces choses-là, et notamment de pouvoir préserver ce savoir-là, puisque quand on a un composant dont on ne connaît pas le fonctionnement, et où en fait il y a un nombre très réduit de personnes qui savent exactement ce qu'il fait, et bien si ce groupe de personnes, si cette entreprise vient à disparaître, le savoir du fonctionnement de ces composants-là disparaît avec eux. Et c'est un vrai problème de préservation du savoir, des biens communs, ce genre de choses-là. Et finalement, toutes ces problématiques, tous ces enjeux sont en fait un petit peu pondérés par le degré de complexité de ces puces, puisqu'une puce qui est reprogrammable va en fait avoir une capacité décuplée à poser problème au niveau de la confiance, puisque si on peut les reprogrammer, on peut potentiellement leur faire des choses a posteriori pour lesquelles elles n'étaient pas prévues. Mais de la même manière, on peut avoir du matériel qui est prévu pour avoir un comportement malicieux, donc c'est pas complètement inoffensif non plus. Finalement, pour se prémunir de ces problèmes-là, on a les quatre libertés fondamentales qui sont celles énoncées par Richard Stallman pour le logiciel libre. Alors, on peut les adapter au concept de matériel. On parlera de matériel libre. Donc, il s'agira de pouvoir utiliser le matériel comme on le veut, l'étudier, le modifier, pouvoir le redistribuer en version modifiée ou pas. Et évidemment, c'est un concept qui s'applique au logiciel avec le logiciel libre. Et ce sont en fait ces garanties qui vont nous permettre de nous prémunir des problèmes de confiance, des problèmes d'atteinte potentielle aux vies privées qu'on aurait avec du matériel et des logiciels qui ne seraient pas libres. Alors finalement, j'ai détaillé un petit peu où on en est aujourd'hui, en commençant par le matériel libre. Finalement, le matériel aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près deux technologies différentes, qui sont d'une part les circuits imprimés, donc simplement la manière dont les composants sont interconnectés entre eux, et les circuits intégrés, qui sont vraiment les puces dans lesquelles la logique, dans lesquelles le traitement est implémenté. Et puis, donc, si on parle de libérer le matériel, il y a bien ces deux aspects sur lesquels on voudrait avoir les garanties que je viens d'énoncer. Alors, une des garanties nécessaires est la modification. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire de modifier du matériel ? Puisque finalement, pour modifier un logiciel, on voit assez bien, il y a un code source qui est la forme compréhensible par l'homme de la description de ce que fait le programme. Et pour modifier le programme, on va simplement modifier le code source et en faire une nouvelle version. On aimerait faire la même chose pour le matériel, donc ça pose la question de qu'est-ce que le code source pour du matériel. Alors, si on reprend les deux technologies, pour les circuits intégrés, ça va être au travers d'un langage de description matérielle, des choses comme le VHDL, le Verilog, qui vont être des langages qui permettent de décrire le fonctionnement numérique d'une puce. Ces choses-là vont pouvoir être modifiées, on va pouvoir créer de nouvelles versions des puces à partir de ces descriptions matérielles modifiées. Pour ce qui est des circuits imprimés, on a des logiciels de conception assistée par ordinateur, des choses comme Eagle, KiCad, un logiciel libre qui permet de faire ça. Et de la même façon, on va avoir des fichiers de code source qu'on va pouvoir modifier pour obtenir une nouvelle version du matériel. Donc toutes ces choses-là sont numériques, ce sont des formats de fichiers, ça pose notamment la question des formats ouverts. Est-ce que ce sont des formats qu'on peut ouvrir avec des logiciels libres ? Est-ce que ce sont des formats pour lesquels on a une connaissance en fait, de la manière dont le matériel est décrit dans ces formats ? Ça pose un certain nombre de questions. Et puis même quand on a à disposition de ces descriptions du matériel, qu'on peut les modifier, qu'est-ce qu'il en coûte de créer du matériel du matériel existant. Alors on se rend compte que pour les circuits imprimés, il y a un certain nombre d'entreprises qui proposent de créer des cartes à partir d'une description matérielle qu'on leur envoie. C'est assez courant, ça ne demande pas des coûts très élevés. Quoi qu'il en soit, on ne peut toujours pas le faire chez soi. Il faut quand même des machines adaptées qui coûtent relativement cher, mais qui sont amortissables pour une entreprise qui se spécialiserait dans ce domaine-là. Pour autant, lorsqu'il s'agit des circuits intégrés, la complexité est telle qu'il y a en fait qu'un nombre très réduit d'entreprises dans le monde qui sont capables de fondre des circuits intégrés. On ne peut donc pas, à l'échelle individuelle, espérer avoir une version modifiée d'un circuit intégré que cette version modifiée existe vraiment, sans payer une somme astronomique. Il y a une question de dimensionnement, puisque ces choses-là deviennent rentables quand on décide de produire plusieurs millions de composants, plusieurs millions de cartes. À l'échelle individuelle, si on veut simplement modifier son matériel et en obtenir une nouvelle version pour son utilisation personnelle, on va rencontrer des coûts absolument énormes et qu'on ne sera pas capable d'amortir à l'échelle individuelle. J'ai mentionné qu'il y a quelques entreprises qui sont capables de faire ces choses-là et qu'on ne peut pas le faire soi-même. Il y a donc une question de confiance qui s'instaure. Est-ce qu'on fait confiance dans les entreprises qui vont créer le matériel à partir de la description qu'on leur donne ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas altéré entre-temps ? Est-ce qu'ils n'ont pas rajouté des bouts ? Ce sont des questions qui sont assez complexes à résoudre puisqu'on ne peut pas faire ça de manière autonome. Alors, si on regarde un petit peu où en est la situation actuelle, on constate que faire des circuits imprimés libres, c'est quelque chose qui peut se faire, qui existe. Il y a plusieurs exemples. L'Arduino est assez connu. Il y en a d'autres, USB Armory, Novena, qui sont des choses plus complexes, de vrais ordinateurs, qui sont de tels exemples. Quand on s'intéresse au circuit intégré, il y a plusieurs projets qui existent, notamment OpenRisk, OpenSpark et LowRisk, qui sont des implémentations de processeurs avec une description matérielle libre. C'est des choses très intéressantes, mais qui, encore une fois, ne sont pas réalisées concrètement à grande échelle et qu'on ne peut pas soi-même modifier et recréer personnellement. Il y a ensuite un mouvement qui s'appelle Open Hardware. Alors, on a tendance à labeller pas mal de choses comme étant Open Hardware. Dans la plupart des cas, ça signifie que le matériel est documenté, donc on a les schémas électriques. Ça ne sous-entend pas forcément qu'on a la description matérielle qu'on va pouvoir modifier. C'est-à-dire que le schéma électrique est en fait... on va l'obtenir un petit peu sous la forme d'une image, donc pas vraiment sous la forme d'une description, mais plutôt sous la forme d'un plan final qui ne sera pas forcément simple de modifier. Et puis si on regarde la situation pour les appareils mobiles, on constate que absolument toutes les puces et tous les circuits intégrés qui sont utilisés dans les appareils mobiles qu'on trouve généralement ne sont pas libres, très simplement. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours très compliqué de faire du matériel par rapport au logiciel. Recompiler un logiciel prend à peu près une demi-seconde, sauf s'il est un peu plus gros, mais ce ne sont pas des choses compliquées. Faire du matériel, c'est très dur, et technologiquement, il y a donc de gros freins. Bien, alors si on s'intéresse maintenant au logiciel, il y a en fait un certain nombre de points récurrents pour la libération du logiciel. Alors, le premier point, c'est de se demander pourquoi les fabricants ne font pas simplement du logiciel libre pour les appareils qu'ils vendent, puisque quand on achète un téléphone, il y a bien un système qui est préinstallé dessus, il y a bien du logiciel qui fonctionne. Pourquoi ce logiciel n'est pas libre à la base ? Alors, ça relève essentiellement d'intérêts économiques, puisque les entreprises ne veulent pas libérer leur code, parce que, dans leur inconscient ou pas, c'est... leur code représente leur propriété, représente leur avantage compétitif. Ils ne veulent pas donner ce code, le rendre accessible à tous, simplement pour pas perdre leur avantage compétitif. Il y a des questions de droits d'auteur également. Quand on a des entreprises qui collaborent avec plusieurs entreprises ou qui vont notamment vendre simplement, qui vont vendre en fait du code qui s'applique à un certain matériel, et qui sont en fait partagés par plusieurs entreprises, et donc on a des conflits de droits d'auteur, où par exemple sur un logiciel en particulier, on va avoir 5 ou 6 entreprises qui possèdent des droits dessus, et si on veut que ce logiciel soit libre, il faut que tout le monde arrive à un consensus, à être d'accord, et en fait, pour le coup, ça pose trop de problèmes d'obtenir ce consensus, donc les fabricants laissent simplement tomber, et ça reste propriétaire. Des questions également sur les brevets, puisque pas mal d'entreprises vont en fait violer des brevets en informatique, elles ne veulent pas que ça se sache. Et pour ne pas que ça se sache, ils vont simplement refuser de faire du logiciel libre, puisque c'est beaucoup plus compliqué de prouver qu'un brevet a été violé à partir d'un binaire qu'à partir de code source. Pour autant, il arrive qu'un certain nombre de fabricants utilisent du logiciel libre, donc notamment le noyau Linux, qui est très utilisé sur les appareils mobiles. Quand ils le font, ils sont obligés par le principe de gauche d'auteur ou de copyleft à publier leur version modifiée. C'est donc très positif, on a du logiciel libre pour ces choses-là. Pour autant, le code qu'ils produisent est écrit très rapidement, il n'atteint pas des standards de qualité qui sont ceux des projets libres qu'on connaît. Donc ces bouts-là en fait, ne vont pas être récupérés directement et le code ainsi produit est finalement plus ou moins utilisé à titre de référence, ce qui est déjà quelque chose de relativement positif. Et puis, dans tous les cas où le logiciel n'est pas libre, ce qu'on va faire, c'est de l'ingénierie inverse, donc essayer, à partir du composant binaire propriétaire, essayer de comprendre ce qu'il fait, essayer d'écrire un logiciel libre équivalent qui va faire la même chose. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément de ressources, parce que ça demande des connaissances à propos du matériel, ça demande de connaître un certain nombre de concepts en informatique, pour simplement, à partir du binaire, arriver à comprendre ce qui se passe vraiment. Ça prend un temps qui est assez grand, et quand on a des appareils mobiles qui ont une durée de vie de quelques années, on peut se poser la question de vraiment l'intérêt à court terme pour ces choses-là, puisque si ça nous prend 5 ans de libérer un appareil, mais qu'au bout de 5 ans plus personne ne s'en sert parce qu'il est devenu complètement obsolète, il y a un vrai problème, enfin, on n'arrivera nulle part en faisant comme ça. Et en fait, même avec la meilleure volonté du monde, avec du temps, on a parfois des limitations techniques qui sont récurrentes et qu'on retrouve à plusieurs niveaux, que je vais vous présenter, et qui vont en fait complètement limiter la capacité à libérer le logiciel. Donc la première, c'est évidemment avoir des gens qui savent, qui connaissent les concepts techniques derrière. Il y a parfois des contraintes légales, notamment à l'ingénierie inverse. Ce n'est pas le cas en Europe. On a le droit de faire de l'ingénierie inverse pour l'interopérabilité. Donc, ça rentre bien dans le cadre des logiciels libres. Aux États-Unis, par contre, on n'a pas le droit de faire ce travail d'ingénierie inverse, donc de comprendre à partir du binaire ce que fait le programme. C'est interdit. Ce qu'il faut également pour arriver à écrire un logiciel libre, c'est avoir de la documentation sur le matériel, savoir ce qu'il fait, comment il marche, parce qu'on peut pas tout deviner. C'est rarement le cas, il y a beaucoup de fabricants qui ne documentent pas leur matériel. Et évidemment, il faut des schémas, savoir comment sont câblées les choses entre elles. Si on les a pas, c'est très compliqué de faire cette tâche de libération du logiciel. Et puis même quand on arrive en fait à écrire un code qui pourrait faire des choses, qui serait capable d'implémenter ce que fait le logiciel propriétaire équivalent, on va être confronté à des problèmes pour en fait installer le logiciel dans la mémoire de l'appareil. Donc pour les appareils mobiles, ça va être reflasher le téléphone, ça peut être particulièrement compliqué. Il se peut également que certains logiciels soient inscrits dans des mémoires qui sont en lecture seule, qu'on pourra donc simplement pas réinscrire, et on est à ce moment-là bloqué avec le logiciel propriétaire. Les interfaces pour reflasher, pour inscrire en fait le logiciel libre dans la mémoire du matériel seront parfois secrètes, où l'accès à ces interfaces sera particulièrement compliqué, notamment dans les cas où il faut ouvrir l'appareil, souder des câbles à certains endroits, utiliser du matériel particulier pour reprogrammer. Tout ça, c'est très compliqué, très contraignant, et ça pose des tas de limites. Et enfin, même quand on arrive à remplacer le code sur la mémoire, il n'est pas garanti qu'il puisse être autorisé à s'exécuter, puisqu'il y a des vérifications de signatures qui sont mises en place. Donc il s'agit de signatures cryptographiques où en fait les logiciels vont être signés par la clé privée du fabricant, et la puce va vérifier la signature du logiciel avec la clé publique du fabricant. Et si cette signature ne correspond pas, c'est-à-dire si le logiciel n'a pas été signé avec la clé privée du fabricant, le logiciel ne va pas être autorisé à s'exécuter. Ça veut dire en pratique que si on essaie d'écrire un logiciel libre, qu'on l'installe, mais qu'on ne dispose pas de la clé privée, qui évidemment est privée, on ne va pas pouvoir le signer comme il faut, il ne va simplement pas s'exécuter. Donc c'est encore une fois un gros problème. Et puis même quand on arrive à avoir du code qui s'exécute, quand on le développe, il faut être capable de le déboguer. Donc ça suppose avoir accès à un certain nombre d'interfaces, des ports séries, ce genre de choses, ce qui est rarement gagné d'avance. Encore une fois, ça peut demander de souder des câbles à certains endroits où les interfaces de débogage sont parfois pas du tout exposées, donc c'est une vraie limitation. Et puis même une fois qu'on est arrivé à produire un logiciel qui est entièrement fonctionnel, et ben c'est bien pour le développeur parce qu'il a libéré sa machine, très bien, mais pour tous les utilisateurs qui seraient intéressés, et ben si le processus d'installation est trop contraignant, s'il faut souder des fils, s'il faut utiliser du matériel qui coûte cher, ce genre de choses, ça va fortement limiter l'impact. Donc c'est encore une fois une limitation, et il y a également le risque de rendre le tout inopérant. Donc typiquement quand on va installer un nouveau logiciel, si on fait une fausse manipulation, si on se trompe, si on ne prend pas la bonne version ou ce genre de choses, on va en fait laisser l'appareil dans un état inopérant, et ça fait une brique, c'est un peu dommage. Je vais vous présenter plusieurs aspects un peu plus en détail des appareils mobiles. Donc, en commençant par les micro-logiciels. Donc, les micro-logiciels, ce sont de petits logiciels qui s'exécutent indépendamment sur des coprocesseurs ou sur des périphériques. Et en fait, ils vont exécuter des tâches spécifiques. Ce sont des logiciels assez petits, assez restreints, qui font certaines choses particulières. Sur les appareils mobiles, ils sont la plupart du temps privateurs, ils sont rarement signés. Donc on a espoir de pouvoir les remplacer un jour, ils sont souvent chargés au démarrage, ce qui ne pose pas le problème d'avoir à en fait, les réinscrire dans la mémoire de la puce en question. Et les puces sur lesquelles on trouve ces micro-logiciels, c'est la plupart du temps Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ce qui sert à faire le traitement multimédia, donc à décoder les vidéos de manière accélérée. Parfois les caméras, parce qu'encore une fois, il y a un traitement du signal assez lourd à effectuer, donc on utilise des micro-logiciels pour ça. Si on regarde l'état du logiciel libre pour les micro-logiciels, il y a un certain nombre de choses qui se font, mais ça va être sur du matériel spécifique comme l'Arduino, qui est assez connu, le bus pirate, certains appareils Wi-Fi, mais qui en fait ne concernent pas les appareils mobiles. Ce sont par exemple des cartes Wi-Fi externes qui ne seront pas présentes dans les appareils mobiles. Et Ça veut dire qu'en pratique, les micro-logiciels qui sont utilisés dans les appareils mobiles sont des logiciels privateurs. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur le processeur de communication, le modem. Donc celui-là, celui qui permet en fait de dialoguer avec le réseau téléphonique mobile. Ce composant-là, en fait, c'est un vrai processeur qui est très puissant, qui est bien souvent aussi puissant que le processeur principal. Il exécute un système d'exploitation complet avec des applications, vraiment quelque chose de très lourd. Et en fait, va parfois y avoir une relation de maître à esclave entre le modem et le processeur principal, dans le sens où le modem va parfois être en charge d'allumer, d'éteindre le processeur principal, va pouvoir changer sa mémoire à tout moment. Ça pose un vrai problème puisque pour les appareils mobiles, les systèmes d'exploitation qui s'exécutent dans les modems sont systématiquement privateurs. Et les remplacer est en fait bien souvent même pas une option puisque ces systèmes sont également signés. Il y a un seul projet actuel qui vise à remplacer le logiciel qui s'exécute dans ces processeurs de communication, c'est OsmocomBB. Pourtant, il n'existe en fait que pour des appareils très, très anciens. Il y a une prise en charge matérielle qui est très limitée et en fait, le code n'est pas encore utilisable tel quel. Et il y a des problèmes de certification puisqu'on est là en fait à l'interface avec des réseaux de téléphonie publique. Et il y a un certain nombre de critères, de règles à respecter. Et ça peut également être un frein, un blocage pour le développement de remplacements libres comme OsmocomBB. Puisque les processus de certification sont lents, sont coûteux, ça pose de vrais problèmes. Donc en pratique, le modem est systématiquement privateur dans les appareils mobiles, et c'est évidemment un gros problème pour la sécurité et la vie privée, puisqu'il voit en fait passer toutes les communications de l'utilisateur. Et à vrai dire, ça peut être encore pire que ça, puisque dans certains cas, notamment dans le cas d'une relation maître-esclave du modem par rapport au processeur principal, le modem va être capable d'accéder au reste du matériel, typiquement d'accéder au GPS, d'accéder aux données, d'accéder à la mémoire vive, et ça va lui donner en fait une capacité accrue à espionner l'utilisateur, et entre autres la capacité de compromettre le processeur principal, donc en changeant les applications, en changeant le code qui s'exécute à la volée. Ça pose des problèmes immenses. C'est pour ça qu'on va s'intéresser en fait à l'isolation du modem. Il s'agit de vérifier si le modem est connecté ou non à d'autres composants du système, à d'autres composants de l'appareil mobile. Alors, vérifier ça, ça résout en rien les problèmes de liberté, puisque le modem utilise toujours un logiciel propriétaire pour fonctionner. On peut aussi noter qu'il restera un certain nombre d'autres moyens d'espionner l'utilisateur, notamment au niveau de l'opérateur de téléphonie mobile, puisqu'en fait tous les appels, tous les messages qu'on envoie seront également vus par l'opérateur de téléphonie mobile et ils pourront être interceptés à ce moment-là, à moins qu'ils soient chiffrés, comme c'est le cas quand on utilise des applications comme SMS Secure. On peut également noter que la vérification de l'isolation du modem, c'est quelque chose qui est très compliqué en pratique à effectuer, puisque pour voir ce à quoi le modem est connecté, on doit se baser sur des schémas électriques qui sont la plupart du temps fuités, parce que les fabricants d'appareils mobiles ne diffusent pas les schémas d'interconnexion des composants. On n'a donc aucune certitude véritable sur une bonne isolation du modem. On peut trouver dans le code des indices qui laissent à penser que le modem est connecté directement à tel ou tel appareil. Et quand on voit ce genre de choses, on peut savoir que l'isolation du modem est bonne, mais dans tous les cas, on pourra constater que l'isolation du modem est mauvaise, mais on ne pourra pas s'assurer qu'elle est bonne à aucun moment. Puisque finalement, si on ne voit pas une interconnexion sur un schéma, on ne peut pas s'assurer que sur la carte, en vérité, une interconnexion n'existe pas. Ça pose encore une fois le problème de confiance dans le matériel. Pour aborder maintenant la partie un peu plus connue de l'utilisateur, le processeur principal, d'abord une liste de l'ensemble des logiciels qui s'exécutent sur le processeur principal. Alors, tout d'abord, on a des microcodes. Alors, les microcodes, c'est pas la même chose que les micro-logiciels. Les microcodes, ça va être en fait une description qui va permettre au processeur d'interpréter les instructions. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail sur cet aspect-là. On a ensuite des parties boot-ROM et chargeurs de démarrage qui vont s'assurer de simplement faire démarrer l'appareil pour ensuite charger un système d'exploitation qui est présent sous différentes couches, avec tout d'abord le noyau Linux qu'on connaît, différentes couches d'abstraction matérielle qui font l'interface entre le matériel, le noyau et les couches plus hautes du système, comme le framework, enfin, les frameworks, qui sont des espèces d'interfaces génériques qui vont permettre d'accéder au matériel. Puis les applications tout en haut qui sont celles qu'on connaît, qu'on peut installer, ce que l'utilisateur voit vraiment. Alors pour revenir un peu sur les microcodes, c'est donc une description en fait semi-matérielle, semi-logicielle qui va dire au processeur comment interpréter les instructions, puisque le décodage des instructions dans les processeurs est quelque chose qui a pris une complexité assez énorme et qui, la plupart du temps maintenant, n'est plus implémenté simplement avec du matériel. On a donc une partie qui est, si on veut, en logiciel et qui assure le décodage des instructions pour exécuter les logiciels du processeur principal. Sur les appareils mobiles qui utilisent certaines technologies comme ARMv7 et MIPS, les implémentations du décodage des instructions sont entièrement matérielles, il n'y a donc pas de microcode. Pourtant sur les versions plus récentes qui sont plus complexes, notamment ARMv8 qui est en 64 bits et x86, on a systématiquement des microcodes qui sont privateurs. Ceux-ci sont en fait préinstallés puisqu'ils sont nécessaires pour faire démarrer l'appareil, mais on va avoir des mises à jour qui sont chargées au démarrage et qui vont la plupart du temps résoudre des bugs qu'il y avait dans la version préinstallée. Et ces choses-là sont généralement signées, c'est en tout cas le cas sur x86, j'ai pas eu de retour par rapport à ARMv8, c'est peut-être le cas, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, les microcodes sont soit non utilisés ou quand ils sont utilisés, ils sont systématiquement privateurs. Bien, alors la couche suivante, les logiciels de démarrage, sont en fait décomposés en deux choses. D'abord la boot ROM qui est dans la puce principale du processeur, pardon, de l'appareil, qui est quelque chose de systématiquement privateur et qui est en fait dans une mémoire non réinscriptible. C'est vraiment le premier boot code qui s'exécute au démarrage de la machine. Et ces choses-là vont pouvoir implémenter des vérifications de signature. Et c'est pour ça qu'on va parfois être contraint d'utiliser des composants privateurs signés à la suite de cette boot ROM. Il s'agit donc de chargeurs de démarrage. Pour autant, il y a certaines bonnes plateformes qui n'implémentent pas de telles vérifications de signature dans leur boot ROM. Et quand il n'y a pas de telles vérifications de signature, on peut avoir des logiciels libres pour faire démarrer le système. C'est par exemple le cas des projets Uboot et Coreboot qui prennent en charge un grand nombre de plateformes. Donc il y a un certain nombre d'exemples, IMX, Solwinner, OMAP, Tegra, ce genre de choses, qui sont prises en charge par des logiciels libres. Donc des logiciels libres pour le démarrage existent, il faut simplement choisir de bonnes plateformes et donc choisir des appareils qui utilisent ces bonnes plateformes. Pour autant, tous les aspects liés en fait, au processeur principal sont vraiment cruciaux pour la vie privée et la sécurité, parce que le processeur principal a accès en fait, à tout le reste de l'appareil mobile. C'est un petit peu lui qui coordonne la danse, en fait, qui coordonne toutes les interactions entre toutes ces choses. Il a évidemment accès aux données utilisateurs, puisque c'est au travers du processeur principal qu'on va donner en fait, toutes les informations à l'appareil. Tout ce qu'on rentre, tout ce qu'on tape au clavier, toutes les photos, tous les enregistrements, tout ce qu'on fait, tout ça, ça passe par le processeur principal. Il a également accès à toutes les communications, parce qu'encore une fois, c'est par là qu'on fait passer tout ça. Et il se trouve que quand il y a des logiciels propriétaires installés sur le processeur principal, on peut avoir des choses vraiment, vraiment problématiques pour la sécurité et la vie privée. Notamment la Samsung Galaxy Backdoor qui est en fait une porte dérobée dans un logiciel propriétaire qui s'exécutait sur le processeur principal des appareils Samsung et qui permet au modem d'avoir accès à l'ensemble du système de fichiers de l'appareil. C'est un vrai problème de sécurité simplement parce qu'on avait un logiciel propriétaire sur le processeur principal. Alors celui-là, il est évidemment directement en interaction avec l'utilisateur. Ça devient particulièrement intéressant quand on veut modifier l'appareil, puisque c'est ça qu'on voit en premier. Ça devient également intéressant d'avoir du logiciel libre pour pouvoir faire des mises à jour, puisque quand on a des composants propriétaires, ils ne vont pas suivre les changements de version, ils ne vont pas suivre les changements d'API du système, et pour le coup, ces composants-là vont empêcher de mettre à jour le reste du système vers une version plus récente. Donc si on regarde les différentes couches du système d'exploitation, donc on a le noyau qui est Linux, qui la plupart du temps est libre puisqu'il est sous gauche d'auteur. Les fabricants publient le code source modifié sous licence libre. Ce qu'on a juste au-dessus, les couches d'abstraction matérielle, c'est en fait ces parties-là qui sont propriétaires et qui contiennent véritablement la connaissance de comment dialoguer avec le matériel, de comment le faire fonctionner. Et c'est donc dans ces parties-là que tous les logiciels propriétaires qui sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil se trouvent. Et évidemment, pour les frameworks, c'est les applications. Il existe des tas d'exemples de logiciels libres. Alors, Android, Firefox OS, Ubuntu Touch, tout ça utilise des frameworks qui sont libres. Les applications, il en existe de très nombreuses qui sont libres. Pour Android, il y a F-Droid qui est un dépôt d'applications et qui a plus d'un millier d'applications libres qu'on peut installer facilement. Donc au niveau justement de ces couches d'abstraction matérielle, il y a différents aspects qui sont particulièrement problématiques et qui sont systématiquement propriétaires. Ça va être le cas de l'accélération graphique et de la 3D, donc en fait la prise en charge des GPU qui sont les coprocesseurs dédiés à ces choses-là. Selon les plateformes, on va également pouvoir avoir des problèmes au niveau des caméras, surtout quand elles sont directement liées au GPU, parce que c'est du traitement d'image qui est assez lourd. Donc ça va en fait plus vite de faire communiquer directement la caméra et l'organe, donc le GPU qui sert à accélérer les graphismes, plutôt que de passer en fait par le processeur principal. Donc si on n'a pas de logiciel libre pour le GPU, les caméras vont à ce moment-là pas marcher non plus. L'audio peut également poser problème sur certaines plateformes où, encore une fois, les couches d'abstraction matérielle sont propriétaires. Il y a pourtant un certain nombre de projets qui sont dédiés à la libération d'aspects très, très spécifiques qui demandent pas mal de boulot très technique, très spécialisé. C'est le cas de FreeDreno pour les GPU Adreno, Lima pour les Mali et Nouveau pour les NVIDIA. Donc tout ça, c'est des projets de logiciels libres qui ont déjà un bon état de maturité et qui permettent de faire des choses. Quoi qu'il en soit, ces librairies d'abstraction matérielle, elles restent pour la plupart des appareils propriétaires, elles restent nécessaires parce que c'est vraiment ces logiciels-là qui permettent de communiquer avec le matériel. Elles ont parfois des privilèges assez élevés puisque c'est quelque chose de très bas niveau. Il n'est pas rare que plusieurs de ces applications-là soient exécutées avec des droits d'administrateur, donc sous le compte-route. Si elles sont propriétaires, évidemment, ça pose des tas de problèmes de sécurité. Puisqu'elles ont accès en fait, à tout le reste du système. Et encore une fois, c'est là que réside le savoir du fonctionnement des composants, puisque c'est là qu'est implémentée la communication avec le matériel. Bien, alors une fois qu'on a un petit peu cette idée globale des différentes couches d'un appareil mobile, là où il y a des choses qui posent problème, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut y faire, comment améliorer la situation. Alors c'est pas franchement simple. On peut en attendant au moins constater que les appareils mobiles peuvent en général être compromis, que les données et les communications ne sont pas sûres, et que donc s'il y a de vrais enjeux, il ne faut simplement pas partir du principe qu'on peut leur faire confiance. Pour ce qu'on peut faire, il y a encore une fois ce problème du court terme, puisque les appareils mobiles évoluent de manière très, très rapide. Le temps d'en libérer un, en fait, ça peut être trop long devant le temps de vie d'un téléphone. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de développeurs sur ces sujets-là. Et il en manque énormément. Il y a trop peu de gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et à très court terme, ce qu'on peut faire, ou à moyen terme, ouais, c'est finalement libérer le système d'exploitation, parce que c'est encore là qu'il y a le plus de logiciels libres déjà, et où il y a simplement ces couches d'abstraction matérielle à libérer. Utiliser de bonnes plateformes sur lesquelles on va pouvoir avoir des chargeurs de démarrage libres, s'intéresser à l'isolation du modem, et éventuellement produire de manière communautaire des appareils mobiles. Donc la solution de système libre, c'est le projet Replicant, dont je suis le développeur. Donc c'est un système qui est entièrement libre, entièrement composé de logiciels libres. Il s'agit donc de remplacer les composants propriétaires dans ces couches d'abstraction matérielle par des équivalents libres qu'on écrit au sein du projet. C'est quelque chose qui est basé sur Android, parce qu'Android reste le système mobile à peu près libre qui est le plus avancé, le plus utilisable. Donc Replicant, évidemment, n'encourage et ne distribue que du logiciel libre, mais également l'accent sur la vie privée, la sécurité, en désactivant un certain nombre de fonctionnalités malveillantes. Et l'idée, c'est vraiment de garder quelque chose de fonctionnel et d'utilisable, de ne pas avoir simplement une sorte de concept, de système théorique sur lequel on a enlevé tous les composants propriétaires, mais qui finalement ne marche pas parce qu'il manque trop de choses. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est utilisable, certes avec un nombre de fonctionnalités réduit, mais qui reste utilisable. Donc actuellement, j'en suis le seul développeur, je fais ça sur mon temps libre. Ça veut dire que le projet avance assez peu. Les contributions externes sont rares, à part sur certains points particuliers de mise à jour de sécurité. Actuellement, il y a 12 appareils pris en charge, donc essentiellement des Samsung Galaxy et des Nexus. Il manque beaucoup de fonctionnalités, notamment les points que j'ai mentionnés, l'accélération graphique, les GPS. parce qu'il y a des composants propriétaires qui sont simplement trop durs à remplacer par des logiciels libres. Actuellement, c'est basé sur CyanogenMod, donc qui est une version communautaire d'Android assez connue. Et le soutien financier au projet se passe par des dons qui sont gérés par la Free Software Foundation, la Fondation pour le logiciel libre. Et les dernières images qui sont sorties sont donc 4.2.0.0.4. Donc ça, c'est l'ensemble des appareils pris en charge par le projet Replicants. Ça en fait finalement pas beaucoup par rapport à ce qui existe. On voit que ça prend du temps à chaque fois. Le projet a été démarré en 2010 et ça a pris énormément de temps d'ajouter à chaque fois la prise en charge de ces appareils. Il y a un certain nombre de challenges pour le futur, notamment des questions de confiance envers CyanogenMod, donc tout le code libre d'Android communautaire qu'on réutilise. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas des bouts qui posent problème pour la sécurité ? On n'a pas vraiment l'occasion de faire un audit de l'ensemble du code pour savoir s'il est vraiment fiable, s'il n'y a pas de problème de sécurité, de choses malveillantes à l'intérieur, notamment dû au fait que CyanogenMod, en fait le fondateur de CyanogenMod a démarré une entreprise qui s'appelle Cyanogen et qui utilise en fait une version dérivée de CyanogenMod avec des composants propriétaires. On peut donc de ça déduire que son intention n'est pas du tout de faire du logiciel libre. Et pour le coup, ça pose un certain nombre de doutes. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance dans ces personnes-là ? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ? C'est pas évident du tout. Il y a d'autres solutions pourtant qui existent. OmniROM, qui est une autre version communautaire d'Android, et qui est apparemment beaucoup plus engagée sur le côté logiciel libre, même s'il distribue encore tous les composants propriétaires pour les couches d'abstraction matérielle. Il serait bien de passer sur de nouvelles versions parce que Replicant est en version 4.2, la dernière version d'Android c'est 6.0, ça fait beaucoup de versions majeures de différence. C'est un travail énorme en fait de passer sur une nouvelle version. C'est pour ça qu'il faudrait que ça arrive, mais pour ça il faut encore une fois plus de contributeurs. Un problème qu'on a également, le fait que Google remplace de plus en plus les applications de base du système par leur version propriétaire. Ce qui fait que les applications de la couche de base libre d'Android ne sont plus maintenues. On a donc des applications qui sont vieilles, qui vieillissent mal, et il faudrait en fait des gens pour écrire des remplacements modernes à ces applications, pour des choses vraiment très basiques. Hein. Typiquement, la galerie pour regarder les photos sur Replicant est complètement cassée et complètement inutilisable, parce que la version écrite par Google dans leur code libre de base n'est plus maintenue. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est un des aspects sur lesquels il y a de nombreux développeurs qui pourraient s'investir et qui pourraient simplement écrire une application de galerie. C'est pas quelque chose de techniquement compliqué, ça prend juste du temps, il faut l'écrire en Java. Enfin, c'est à la portée de pas mal de développeurs, finalement. Alors, il y a un certain nombre d'autres objectifs futurs, notamment arriver à être indépendant au niveau de l'hébergement du code source, qui n'est pas une tâche simple, puisque le code source d'Android, c'est quelque chose de très très gros. Donc arriver à passer sur une nouvelle version, produire de la meilleure documentation, notamment au niveau de l'isolation des modems, au niveau de ce qu'on sait de la liberté sur les plateformes prises en charge actuellement. Tout ça, c'est des choses qui sont encore mal documentées. Et puis finalement, un autre aspect qui serait vraiment intéressant, ce serait prendre en charge de meilleurs appareils, donc qui utilisent des plateformes sur lesquelles on peut avoir des chargeurs de démarrage libre. Ça l'a mentionné. Voilà. Puisque en fait les appareils qui sont pris en charge aujourd'hui ont pour ces quatre-là une mauvaise isolation du modem qui est avérée, donc des problèmes de vie privée, et sur cela, sur l'ensemble en fait des chargeurs de démarrage qui sont à la fois propriétaires et signés, qu'on ne peut donc pas remplacer. Pour ça qu'il y a un vrai intérêt à choisir de meilleurs appareils pour le futur de Replicant, qui permettraient donc d'avoir une meilleure isolation du modem qui permettrait d'avoir des chargeurs de démarrage libres. On pourrait également s'intéresser aux appareils mobiles qui n'ont pas de modem, comme les tablettes Wi-Fi, qui ne posent pas donc un certain nombre de tous les problèmes en fait, liés à ce composant-là partirait du coup. Un certain nombre d'autres choses auxquelles on peut faire attention, avoir de la documentation, du matériel, c'est quelque chose de très important si on veut écrire des remplacements libres pour les choses liées directement au matériel. Avoir des designs matériel libres, ça serait encore mieux, c'est malheureusement pas encore tout à fait le cas. Pourtant, il y a un certain nombre d'initiatives intéressantes. Alors, la communauté OpenFenux, qui est basée en fait sur une entreprise allemande qui s'appelle Golden Delicious et qui produit des appareils communautaires, notamment le GTA 04 et les appareils Letux, qui sont des appareils mobiles, donc des téléphones, des tablettes, qui sont faits avec justement des plateformes intéressantes et vraiment dans l'idée de faire du logiciel libre. Le problème, c'est que c'est fait à trop petite échelle. Il y a vraiment trop peu de gens qui sont intéressés par ces choses-là pour qu'économiquement, ce soit rentable pour cette entreprise. Le projet Neo 900, qui a un peu le même but, mais en fait, en allant plus loin, puisqu'ils intègrent le fait que le modem exécute un logiciel propriétaire, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et en fait, il y a tout un tas de capteurs et de mécanismes de protection qui sont implémentés sur l'appareil qui vont permettre de détecter quand le modem a une activité suspecte. Et on va pouvoir, de manière fiable, déconnecter son antenne, déconnecter son alimentation électrique, donc pour pouvoir vraiment s'en isoler de manière très très fiable. Encore une fois, c'est un projet communautaire qui est actuellement en phase de financement. Donc c'est quelque chose qui gagne à être connu. Et en fait, plus le nombre de personnes intéressées grandit et plus le prix de revient de l'appareil va diminuer, puisqu'encore une fois, produire du matériel, c'est rentable qu'en très grande quantité. Sinon, il y a également des appareils chinois, donc notamment des tablettes qui utilisent des puces Allwinner ou Rockchip, qui sont assez intéressantes du point de vue des chargeurs de démarrage libre et également du logiciel libre en général. C'est un petit peu un hasard, mais il se trouve que sur ces puces-là, on arrive à avoir du logiciel libre qui fonctionne assez bien. Donc c'est des choses assez bas de gamme. Et il y a également d'autres appareils, notamment le LG Optimus Black, qui est un téléphone qui utilise une bonne plateforme sur laquelle on peut libérer le chargeur de démarrage, ce que j'ai fait au cours de l'année dernière. Et donc maintenant, ce téléphone-là, on peut le démarrer avec un chargeur de démarrage libre. Il reste à portée réplicante pour avoir un système entièrement libre sur le processeur principal, donc c'est-à-dire du début à la fin, avoir uniquement des logiciels libres qui s'exécutent. Le Kindle Fire est dans la même optique, je n'ai pas encore eu le temps de travailler dessus, mais c'est un appareil qui utilise une bonne plateforme pour la liberté. Il y a d'autres formats d'appareils qui existent, qui restent à découvrir, en fait, puisque pour savoir s'ils utilisent une bonne plateforme, eh ben, il faut simplement regarder. Et passer en revue tous les appareils mobiles qui existent aujourd'hui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc on les découvre petit à petit, ceux qui présentent un intérêt. Voilà, si vous êtes intéressé par le projet Réplicante, que vous souhaitez en apprendre plus, on a un site web, un blog, un wiki avec toutes les informations, notamment pour installer Réplicante. Un tracker si vous utilisez Réplicante, que vous avez des bugs à rapporter, ce genre de choses. Tout ça, c'est vraiment bienvenu, ça aide à faire avancer le projet. On a une petite communauté qui commence à grandir d'utilisateurs, alors, notamment au niveau de forums qui sont en fait sur le redmine.replicante.us. On a également une liste de diffusion où il y a un certain nombre de discussions intéressantes sur ces sujets-là qui prend place. Également un canal IRC, Réplicante sur Freenode, où vous pouvez venir typiquement demander de l'aide pour l'installation de Réplicante sur un appareil, ce genre de choses. Et encore une fois, le projet a vraiment besoin de plus de développeurs. Je suis tout seul aujourd'hui et le projet n'avance pas comme ça. On a vraiment besoin de plus de contributeurs. Il y a en fait différents aspects sur lesquels on peut contribuer. Et il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'inaccessible. Il faut simplement du temps, de la curiosité. Et puis finalement, si on n'est pas capable de faire une contribution technique, les dons sont également bienvenus parce que les appareils coûtent cher et qu'avec mon budget d'étudiant, acheter 12 téléphones, ben, c'est pas spécialement simple. Voilà, c'en est tout pour cette présentation. Je vous remercie et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir.
Oui. Tu n'as pas parlé, bon, tu as bien expliqué la complexité de l'affaire, d'analyser les téléphones rétro-ingénierie, ce qu'il y a dedans, et parler à la fin des matériels un peu plus positifs, enfin, moins hostiles. Tu n'as pas parlé du Fairphone. Alors, le but du Fairphone n'est pas le logiciel libre, c'est plutôt commerce équitable, s'assurer que les ouvriers qui le montent sont payés, qu'il n'y a pas de matériel, enfin, de métaux précieux issus des zones de guerre, ce genre de trucs. Mais bon, c'est quand même une démarche qui n'est pas trop éloignée. Les gens de Fairphone ont toujours dit que eux, travailler sur le logiciel et sur le logiciel libre ne les intéressait pas eux, mais qu'ils n'étaient pas hostiles et qu'a priori, ils n'ont pas de secret ou ils seraient d'accord pour livrer les plans. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose entre les adeptes de Max Avelar et ceux de Richard Stallman ?
Oui, alors pour le coup, je n'ai pas mentionné le Fairphone de manière un petit peu consciente parce que ça fait plusieurs années qu'on est en contact avec eux. Précisément qu'on serait intéressé pour porter Replicant sur le Fairphone. Ils ont déjà fait une deuxième itération. Il y en avait une première version qui était sortie il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'ils construisent leur téléphone, ils le font avec des plateformes qui sont très hostiles au logiciel libre. Simplement, il n'est pas possible sur ces plateformes-là d'avoir du logiciel libre pour faire exécuter le, enfin pour pardon, faire tourner l'ensemble du système. Donc, si on venait à porter Replicant là-dessus, ben en fait, ça marcherait pas parce qu'il y a trop de composants propriétaires qu'on ne pourrait pas remplacer. C'est dommage. Ça fait un certain temps qu'on leur demande bien poliment d'utiliser de meilleures plateformes. Mais ce n'est pas un objectif vraiment pour eux, donc ils utilisent les plateformes qui en fait sont les plus rentables économiquement, pour lesquelles il y a des boîtes qui se spécialisent dans le design d'appareils mobiles, parce que, encore une fois, eux, ce qui les intéresse, c'est le côté équitable, qui est quelque chose de très, très positif, hein, et je suis personnellement très heureux de voir ce genre d'initiative, mais malheureusement, ils ont mal choisi les composants pour le logiciel libre. C'est regrettable.
Ouais, du coup, c'est pas forcément très équitable envers les utilisateurs. Mais... Et ce qui m'amène à une autre question, alors c'est peut-être plus pour Benjamin Bayard. Il y a quand même un volet légal à toute cette histoire, parce que de même que un téléphone, c'est une tablette avec un modem, et une tablette, c'est un ordinateur sans clavier. Et un ordinateur, normalement, c'est un matériel. Et ça se vend ou pas avec un système d'exploitation. Donc il y a toute la question de la vente liée, alors vente liée, vente forcée, après, voilà, il y a une histoire de terminologie. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas juste faire un procès et exiger d'avoir les spécifications qui sont juste le manuel utilisateur du matériel ?
Alors ça, effectivement, ça fait partie des choses, d'abord qui sont pas forcément très simples à comprendre, que le fabricant du matériel ne veuille pas expliquer comment son matériel marche pour qu'on puisse s'en servir. C'est pas intuitif. En général, le fabricant d'un matériel, il a plutôt intérêt à expliquer comment ça marche pour que les gens s'en servent. Il se trouve que sur tout ce qui relève de l'électronique, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les clients sachent comment ça marche. C'est très particulier, parce que c'est très étrange. Le fabricant de telle puce qui remplit telle fonction très spécialisée, il n'a pas intérêt. Moi, je prends l'exemple dans lequel j'ai bossé quand j'ai travaillé chez différents opérateurs. Tel composant qui fait la décompression vidéo dans la crétin box que vous avez chez vous, ils ont intérêt à ce que le fabricant de la box ne sache pas comment marche le chip, de manière à ce qu'il soit obligé d'acheter le chip et le logiciel et de payer les deux, et ils payent évidemment des royalties sur le logiciel. Et donc il ne faut surtout pas qu'ils puissent mettre les doigts dedans. C'est très étrange, c'est très bizarre comme façon de fonctionner. C'est une répartition de la valeur dans leur business qui est très 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 curieux. Enfin, il n'y a pas de logique derrière. Ils vendront le même nombre de millions de chips, que ce soit avec ou sans le logiciel, et que le logiciel soit donné avec ne change pas grand chose en fait dans l'histoire. Donc c'est assez étrange. Mais il y a des vraies questions derrière qui sont très complexes. Et il se trouve que essayer de défendre ça devant un tribunal, alors en droit probablement. Je suis pas très sûr. Enfin, ça suppose de trouver un juge qui comprenne la question. Quand on dit à un juge, mais le système d'exploitation fait partie de l'ordinateur, et en fait, il n'y a pas de différence entre un iPhone et un iOS, le juge, il est assez d'accord, il comprend pas ce que c'est un logiciel. Il comprend qu'on pourrait changer les icônes et en mettre des bleus au lieu d'en mettre des vertes. Et du coup, il va dire, bah oui, d'accord, il n'y a pas d'option pour changer le thème, mais c'est pas grave ça. Et il va pas forcément comprendre beaucoup plus loin. Lis les transcriptions des différents procès qui tournent sur des questions d'informatique. Relis le procureur contre Bluetooth, tu vois. Ils comprennent pas la question. Le grand problème, c'est qu'ils comprennent pas la question. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a des affaires en cours sur les histoires de ventes liées entre ordinateurs et systèmes d'exploitation. Et on parle de systèmes d'exploitation qui peuvent s'installer quand on reprend les procès d'il y a 10 ans. C'est-à-dire que tu pouvais aller acheter Windows dans une boîte pour l'installer sur un PC. Et tu pouvais expliquer, je veux acheter le PC sans Windows. Ça, même un juge arrivait à peu près à le comprendre. Du moins, il arrivait à comprendre la nature de la question. C'est pourquoi est-ce que je suis obligé de prendre le carton de l'ordinateur en même temps que la boîte dans laquelle il y a Windows. ça, ils arrivaient à peu près à comprendre la notion de ventelier. Sur une tablette, ils n'arrivent plus à le comprendre. Parce qu'en fait, tu n'as pas, dans le même supermarché, dans le rayon d'à côté, une boîte avec Android. Et donc, du coup, le juge ne comprend pas. Et quand tu vas lui expliquer que c'est le contrôleur embarqué qui pilote le clavier du laptop, donc qui est en fait un bout de chip microscopique perdu au fin fond d'une carte que tu ne vois jamais tant que tu ne démontes pas ton portable, et le microcode qui tourne dessus, il ne comprend même pas que ce sont deux objets distincts. Et il faudrait plusieurs centaines d'heures de cours d'informatique, de rattrapage et de mise à niveau pour qu'il commence à envisager que, ah ouais, tiens, il y a une vraie différence entre les deux. Donc légalement, il y a une vraie différence entre les deux. Simplement, les juges ne comprenant pas la question. Et comme dans tous les sports, la seule chose qui compte, c'est ce qu'a compris et ce qu'a vu l'arbitre. Et comme l'arbitre n'a rien vu et n'a rien compris, il ne s'est rien passé. Donc voilà, on a un gros, gros problème de fond. Mais pour moi, sur la question juridique, j'ai presque envie de l'approcher autrement. Nos différents gouvernements dépensent des sommes folles pour essayer de fabriquer des téléphones que les ministres n'utilisent pas et qui ne soient pas écoutés. Pour probablement la moitié de ce budget-là, on pourrait avoir 30 ou 40 développeurs à plein temps sur Replicant. Et où du coup, nos ministres pourraient avoir des téléphones utilisables et pas écoutables. Parce que là, ils n'ont que des téléphones pas écoutables et pas utilisables. Du coup, pas écoutés, hein, c'est, vu qu'il n'y a rien à écouter dessus. Enfin, truc de dingue, tu leur achètes un téléphone en plastique et que rien dedans, ça fait pareil. C'est pas écouté vu que c'est pas utilisé. Mais c'est... Voilà. Alors, ce que... Oui, le cahier des charges imposé, je reprends au micro pour ce qui enregistre, le cahier des charges imposé à Thales sur le téléphone pour ministre est beaucoup plus exigeant que celui de Replicant. Il n'empêche qu'il est inefficace et qu'il est cher. Et qu'on pourrait obtenir quelque chose de peut-être moins exigeant en termes de cahier des charges, mais qui pour le même budget produirait un effet au lieu de produire rien. Ce qui serait quand même pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont produit des téléphones qui prennent la poussière sur le bureau des ministres. C'est pas un truc d'une grande utilité. D'autant qu'il est même décoratif, quoi. C'est nul.
Oui, bonjour. Je voudrais enchaîner sur la question précédente. En fait, vu le peu d'intérêt qu'ont nos gouvernements successifs pour le libre, est-ce qu'il n'y a pas au contraire aujourd'hui un risque réel qu'il devienne bientôt illégal de jailbreaker un smartphone ou un routeur pour y installer un système libre, vu aussi les lois qui sont votées actuellement ?
C'est la FCC aux États-Unis qui a eu des velléités d'interdire de changer le firmware sur les bornes Wi-Fi. Donc oui, la question se pose, évidemment que la question se pose, mais comprends-tu, c'est l'état d'urgence, il ne faudrait pas qu'on puisse chiffrer les communications, ça empêcherait de les écouter. C'est dans les conclusions très bizarres de ces derniers jours, les terroristes utilisaient des communications en clair et donc il est urgent d'interdire le chiffrement. Tout est dans « donc ». Voilà, on a le gouvernement qu'on mérite, camarade.
Pour partir sur du plus positif, tu disais que ça serait bien de ne plus être le seul développeur, je suis bien d'accord. Je vais te poser deux questions. Quelle serait ta lettre au Père Noël pour avoir d'une part un développeur idéal qui pourrait fournir un taf génial et puis... les compétences minimales pour que le coût d'entrée et d'implication dans le projet soit suffisamment intéressant pour se plonger dedans.
Bon, alors déjà, le premier point, c'est qu'en fait, il faut juste du temps. Hein, tout peut s'apprendre à peu près. Si on est curieux et qu'on a envie de comprendre, tout peut s'apprendre. Moi, j'ai commencé à répliquer en tant qu'utilisateur. J'étais fin collège, un truc comme ça, j'avais jamais touché de programmation ni rien, j'ai tout appris en faisant ça. Et il faut juste du temps, de la détermination. Je crois que le premier obstacle, c'est la tentation de tout laisser tomber dès que quelque chose ne marche pas directement. Parce que, en fait, l'ingénierie inverse, c'est très frustrant, on n'y arrive pas souvent, surtout au début, on n'y arrive pas. Donc, le développeur idéal, c'est faut juste être intéressé, passionné, avoir du temps à y passer, ça c'est sûr. Et puis s'accrocher, quoi. Et puis on arrive à des choses. Hein. Enfin, il n'y a pas de magie non plus. Enfin, tout peut se comprendre, s'apprendre. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à peu près tout serait mieux que rien, en fait. Il y a besoin de développeurs pour faire des choses comme écrire des applications en Java pour faire des galeries. Enfin, on peut limite prendre les exemples du site Android, adapter 2-3 trucs et on arrive à quelque chose de pas trop mal. Enfin, c'est vraiment à la portée de pas mal de gens en fait. Donc aujourd'hui, il y a des choses à faire. Il n'y a pas besoin de compétences minimales qui sont folles. Il y a vraiment des choses à faire dans tous les aspects. Rien que documenter certaines choses, ça peut être fait en ayant une connaissance technique de la chose, mais pas non plus voilà, un diplôme d'ingénieur. Il y a un certain nombre de choses qui sont abordables et qui sont faisables, quoi, à mon avis.
Par rapport à réplicante, je voulais savoir, est-ce que on retrouve cette même dénomination réplicante à l'étranger, dans d'autres pays, cette communauté ?
Alors, le projet réplicante est international, en fait. Ça a été lancé par une coopération entre des Italiens et des Français, de mémoire. Donc, il y a vraiment une communauté qui est internationale. Ça parle surtout anglais, c'est pas très bien localisé. Mais effectivement, c'est une communauté qui est à l'échelle du monde. Et quand je fais des conférences dans d'autres pays, je rencontre des utilisateurs qui ne parlent pas la même langue. Enfin, c'est très positif aussi de voir que ce qu'on fait sur Internet, ça a un impact à l'échelle mondiale et ça facilite en fait pas mal de choses aussi.
Merci. Tu as mentionné un point concernant l'évolution qui a priori est négative sur les couches d'abstraction logicielle et le nombre de firmware non libre que l'on retrouve actuellement dans nos appareils. Ne serait-il pas possible de se concentrer sur une plateforme de façon à essayer de la libérer au maximum plutôt que d'étaler complètement sur plusieurs appareils ? À l'heure actuelle, il me semble que sur le premier Nexus, il y avait 4 modules noyaux propriétaires. Aujourd'hui, on en est à une quinzaine. Et plus de 40 firmware.
Alors, pour le coup, c'est vrai que la question de l'approche, comment concentrer l'effort sur certaines plateformes, sur certains appareils, ou essayer de en fait, faire tout en même temps, c'est vrai que c'est une vraie question que je me pose, parce qu'étant seul développeur, j'ai 24 heures dans une journée. En fait, il y a quand même certains aspects qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des similarités assez fortes entre plusieurs plateformes, entre plusieurs matériels. Donc ce qu'on va faire sur une plateforme pourrait être directement utile sur une autre, ça peut se passer. Donc en fait, essayer de se concentrer que sur un appareil en particulier, c'est pas forcément le meilleur calcul, quand en fait une fois qu'on a fait le travail sur un, on peut l'étendre à une vingtaine d'autres en faisant des modifications triviales ou juste en adaptant certaines couches. Donc ça me semble être un calcul assez judicieux. Après, effectivement, c'est un peu ce que je mentionnais à la fin sur l'idée de choisir des appareils qui sont meilleurs. Donc de ne pas en fait disperser l'effort en essayant de prendre en charge le plus grand nombre possible d'appareils à un degré qui serait en fait assez limité, mais plutôt de sélectionner des appareils qui montrent un vrai potentiel, qu'on peut vraiment libérer jusqu'au bout et de se focaliser sur cela. Donc c'est en fait un petit peu l'approche que j'ai depuis à peu près un an maintenant. Donc ce que je mentionnais sur le LG Optimus Black, c'est un des téléphones sur lesquels il y a vraiment moyen de faire des choses au bout parce qu'on peut avoir un chargeur de démarrage libre. C'est déjà le cas en fait, le code que j'ai écrit fonctionne, il permet de faire démarrer l'appareil. Et je compte vraiment me focaliser là-dessus. Alors, se focaliser sur un appareil, c'est à mon avis peut-être pas le mieux, j'essaie de faire un peu plus que ça, c'est-à-dire 2-3. Mais typiquement, ce qui me semble être un mauvais calcul, c'est de suivre la frénésie en fait, des fabricants de téléphones qui sortent un nouveau modèle tous les 6 mois, d'essayer de suivre ce rythme-là, en fait, ça semble assez impossible. C'est très frustrant parce qu'au bout de 6 mois, on n'est pas arrivé à faire grand-chose. Il manquera encore plein de fonctionnalités. Si tous les 6 mois on doit passer sur un nouveau modèle, c'est simplement pas tenable et ça donne pas de résultats vraiment visibles. Donc il y a toujours ce choix à faire et récemment j'ai fait le choix de me concentrer sur de bons appareils, de bonnes plateformes.
La suite de la question,
c'était de savoir quel type d'appareil tu conseillerais.
D'accord. Donc la suite de la question, c'est en fait quel appareil choisir pour avoir un ticket d'entrée à Replicant en termes de développement qui serait le plus faible, le minimum. Alors j'ai envie de dire que ça dépend sur quel aspect on souhaite travailler. S'il s'agit de développer des applications très haut niveau, on peut prendre à peu près n'importe quel appareil, ça ne posera pas de différence. Pour ce qui est de travailler sur des aspects plus bas niveau, on sait qu'il y a certains appareils sur lesquels il y a des choses faciles à faire. Et donc ceux-là seraient de bons appareils pour de nouveaux développeurs, puisque ben, y aurait vraiment des choses à faire sans trop d'efforts. Ça permet de prendre ses marques, prendre ses repères sur ce code-là sans trop sans être confronté à trop de difficultés d'un coup. Donc tout ça c'est documenté en fait sur notre wiki. Il y a une page de tâches à faire qui énumère en fait tous les différentes choses pour améliorer le système, les aspects spécifiques au matériel et les aspects vraiment génériques. Sachant que quand je parle de développer des applications, on peut tout à fait faire ça sur l'émulateur Replicant. En fait, il n'y a même pas besoin d'acheter de téléphone. On peut simplement installer le SDK Replicant, le Software Development Kit. Il y a un émulateur dedans et on peut tout à fait faire des applications Android pour ça. Ça se passe très bien comme ça. Donc en fait, la réponse, c'est vraiment, sur certains aspects, même pas besoin d'acheter un appareil, quoi.
Oui, d'accord. Mettons qu'au niveau de la fabrication des téléphones, donc il y en a plein de différents, mais si on a envie de créer une fabrication, on pourrait créer au départ, tout de suite, un téléphone libre. Pourquoi pas? C'est une proposition qui pourrait être intéressante.
Oui, alors pour le coup, c'est ce que fait donc l'entreprise allemande Golden Delicious que j'ai mentionné, donc au travers du GTA 04, des appareils Letux, également Neo 900 qui fait donc partie de la communauté Open Phoenix. Et donc c'est du matériel comme ça produit de manière communautaire avec le logiciel libre en vue. Mais encore une fois, la vraie limitation à ces choses-là, c'est simplement le coût de revient de production du matériel, puisque si on ne le fait pas en grande quantité, ça coûte vraiment très très cher à l'unité. Et pour que ça devienne possible, rentable, que ça ait un vrai impact, il faut qu'il y ait une masse critique de gens intéressés. Donc vraiment des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes intéressées pour qu'on arrive à un coût qui reste raisonnable. Mais évidemment, c'est une piste très intéressante.
Tu ne donnes pas les chiffres. Le Neo 900, on parle du fait qu'il pourrait sortir à 1000 ou 1500 euros pièce pour un téléphone qui serait moyen de gamme. Ou bas de gamme, mais en tout cas très très loin des derniers Galaxy Samsung. Donc on parle d'un téléphone qui est 3-4 fois plus cher que le prix du marché. Donc c'est le coût, même s'il y a un millier de personnes pour acheter ce téléphone-là, le coût envisagé est très 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 élevé. En fait, il faudrait qu'il y ait 35 ou 40 millions d'utilisateurs dans le monde pour que ça ait du sens. Et quand il y aura 40 millions d'utilisateurs de Replicant dans le monde, il y aura des téléphones dont le matériel est libre.
J'ai vu il n'y a pas longtemps avec une carte électronique de taille carte de crédit avec un processeur ARM dessus, avec un module d'écran tactile, on pouvait fabriquer un téléphone. Bien sûr, il fallait acheter un modem. Et donc, je me demandais si de cette façon-là, on ne pouvait pas aider comme il y a le modèle qu'on ajoute nous-mêmes, on pouvait bien s'assurer de son isolation. De deux, concentrer les efforts des développeurs. Et de trois, mais comme le coût était extrêmement faible, peut-être profiter de ce qu'on appelle la révolution des makers.
Oui, alors pour le coup, c'est une piste intéressante d'utiliser comme ça typiquement des cartes de développement, donc ce genre de choses auxquelles on va simplement greffer un modem. Et le combo des deux coûte finalement pas si cher. Donc ça permet de faire des choses intéressantes, mais le vrai problème dans tout ça, c'est le packaging physique en fait. Avoir une carte de développement et un modem à côté qui fonctionne, c'est pas très dur. Avoir ça dans un format qu'on peut mettre dans sa poche avec un écran tactile et avec une jolie coque en plastique qui fait pas 10 cm d'épaisseur, là ça devient plus compliqué. C'est à ce moment-là qu'il y a un vrai problème. Mais sinon, effectivement, c'est une piste. De simplement comme ça pouvoir faire de manière avec un peu des blocs un peu grossiers, connecter deux trucs ensemble pour avoir un téléphone libre comme ça. C'est une bonne piste, ça me semble intéressant.
Quand je disais carte de crédit, c'est vraiment carte de crédit. L'épaisseur, ça doit faire ça à peu près, c'est-à-dire 3-4 cm. Après, c'est vrai qu'avec une imprimante 3D, on pourrait faire une coque, mais c'est faisable en soi, il faut juste s'y investir.
C'est très, très pragmatiquement, on compare avec téléphone. Ton téléphone, il fait pas 3 cm d'épaisseur, et s'il fait 3 cm d'épaisseur, il va très vite arrêter de t'en servir parce qu'il te fait chier. Parce que quand tu le mets dans la poche de ton pantalon, tu peux plus t'asseoir, parce que quand tu le mets dans la poche de ta veste, tu penches d'un côté. Enfin, voilà. C'est une vraie contrainte, en fait. Si c'est pas utilisable, si, quelques geeks le feront. Mais t'auras pas 200 utilisateurs en France, quoi. Donc c'est intéressant comme support de développement, mais c'est pas une solution pragmatique. C'est-à-dire que ça donne pas quelque chose que ma mère va prendre pour un téléphone quand elle va le voir. Moi j'ai conférence dans 10 minutes, donc je vais vous laisser.
Il y a sans doute quelqu'un après. Du coup, je suppose qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, je m'envole pas, donc... Vous êtes bienvenue pour les poser. Ben, merci encore une fois.
Information, si vous le souhaitez, il y a un service restauration ce soir et un concert à 21h.